Vous êtes sur RTL.
Et à 7h, RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Oui, l'actualité de ce samedi matin, avant de tout vous dire sur la tuerie de la préfecture de police de Paris, car la justice enquête désormais sur un acte terroriste, un crochet par le sud-est de la France, où des centaines de voyageurs de la SNCF viennent de vivre des heures bien pénibles, bloqués hier après-midi et cette nuit à Marseille et à Toulon, en raison d'une fuite de gaz à proximité des rails à la Ciotat dans les Bouches-du-Rhône. Tout le trafic a été stoppé entre la cité phocéenne et la capitale du Var. Des bus mis en place en urgence pour acheminer une partie des voyageurs. Pour d'autres, il a fallu se débrouiller, parfois dormir dans les trains, s'armer de patience en tous les cas, à l'image de Pauline, 27 ans. Elle a mis près de 12 heures à faire Marseille-Menton. Pauline devait quitter Marseille à 18h30, sauf que tout étant bloqué, la jeune femme s'est retrouvée à dormir dans une rame. La suite, c'est elle justement qui la raconte au téléphone RTL de Romain Houg.
À minuit, on nous a réveillés pour nous dire qu'il y avait un train qui allait partir pour Nice et qu'à Nice, on serait desservi Menton, Monaco. Et en fait, arrivé à Nice, il n'y avait absolument rien de prévu et on a dû redormir dans les trains. Les personnes âgées, c'était vraiment compliqué. Il y en avait qui dormaient à même le sol. Les autres, on essayait d'être sur deux sièges dans le meilleur des cas. On était tous assez énervés et personne n'a réussi à dormir de toute façon. Il y en a qui venaient de Paris et qui avaient des liaisons à Marseille ou d'autres à Toulon. Et donc, depuis à peu près 15 heures de l'après-midi, ils sont dans les trains. Bon, on est content d'arriver à destination. Ben, par contre, il nous manque une nuit.
Il manque une nuit à Pauline, évidemment. Le trafic devrait peu à peu revenir à la normale après des heures et des heures de galère pour ses usagers. La SNCF promet de rembourser les billets à 100%. Chez XL Airways, il n'y aura plus de billets, plus d'avions. Après Aigle Azur, c'est la deuxième compagnie aérienne française qui est liquidée, victime de la guerre des prix du secteur. Liquidation judiciaire prononcée hier au tribunal de commerce de Bobigny. Les larmes ont coulé sur les visages des salariés. 570 collaborateurs sont licenciés. La tuerie de la préfecture de police de Paris, donc, c'était jeudi en fin de journée. Un assaillant, agent administratif, a tué 4 de ses collègues avec un couteau de 33 cm. Et après 24 heures de flottement, les faits sont désormais traités comme un acte terroriste. Les enquêteurs planchent sur une probable attaque djihadiste. L'individu fréquentait une mosquée à Gonesse, avait des liens avec 2 personnes connues pour leur radicalisation. En fait, Olivier Bois, ce sont des interrogatoires de ses proches et surtout son téléphone portable qui ont fait basculer l'enquête.
Oui, des textos échangés entre le tueur et sa femme le matin même de son passage à l'acte. Des textos où il n'annonce pas son intention de tuer, mais ce sont des messages très religieux où il écrit en substance « Allah est grand ». Ce genre de profession de foi, quelques heures avant de perpétrer un massacre, les magistrats ne pouvaient pas l'ignorer. C'est un élément qui a donc été déterminant. C'est pour cette raison d'ailleurs que sa femme est toujours en garde à vue. Son mari était-il radicalisé depuis sa conversion à l'islam il y a moins de 2 ans? Les enquêteurs épluchent tout dans sa vie, dans son entourage, pour tenter de comprendre. Comprendre aussi comment il est passé entre les mailles du filet, alors qu'il travaillait pour la direction du renseignement, qui est un des services les plus sensibles, chargé de la lutte antiterroriste. Dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, on continue en tout cas d'affirmer que ces derniers mois, ces dernières années, aucun témoignage n'était remonté à la préfecture de police pour évoquer un comportement religieux déviant.
Merci Olivier. Olivier Bois du service police-justice de RTL. Ce matin, Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, demande une commission d'enquête parlementaire et pointe l'incompétence du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui, jeudi soir, après les faits, avait décrit l'agresseur comme étant un homme sans histoire. Au Lila, près de Paris, c'est un lycéen de 15 ans qui a été poignardé hier matin à l'entrée d'un stade municipal où se tenaient des cours de sport. Tout est allé très vite. L'agression s'est déroulée sous les yeux d'autres élèves. Le jeune a été victime de plusieurs coups de couteau. En fait, il s'était interposé lors d'une bagarre entre bandes rivales de Seine-Saint-Denis. 3 ados ont été placés en garde à vue. Des mineurs soupçonnés d'avoir participé à l'agression. L'un d'eux aurait porté les coups de couteau. Le maire des Lilas, Daniel Guiraud, dresse le constat d'un phénomène qui se répète.
Ce qu'on sait, c'est que c'est pas la première fois que ça se produit. Sur notre ville, sur les villes alentours, on a vu à plusieurs reprises ces dernières années des rixes mortelles liées à des histoires territoriales, avec une logique débile qui est celle de « moi je suis d'ici, toi tu es d'ailleurs, donc tu es un ennemi, donc je peux te tuer ». Alors ça nous concerne bien évidemment et heureusement qu'une toute petite fraction de la tranche d'âge des adolescents qui se livrent à ce genre de pratiques qui peut avoir des conséquences totalement funestes, comme on l'a vu aujourd'hui malheureusement au Lila.
Le maire des Lila au micro RTL de Thomas Dulin. Dans le Val d'Oise, cette fois, un lycéen, Donny, est en garde à vue, soupçonné d'avoir agressé un enseignant qui voulait lui confisquer son téléphone portable au sein de l'établissement. L'élève mécontent a fait un croche-pied à son prof d'histoire géo, lequel a chuté au sol et souffre d'un léger traumatisme crânien. Les enseignants du lycée Paul-Émile Victor ont fait valoir leur droit de retrait après cet épisode. Droit de retrait qui sera reconduit ce lundi. Dans un instant, la Corrèze rend hommage à son tour à Jacques Chirac et puis le football avec Marseille qui perd en Ligue 1. A tout de suite.
RTL Matin. Et à 7h07, suite de RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et donc chacun son tour, 8 jours après l'hommage populaire rendu à Jacques Chirac aux Invalides à Paris. C'est la Corrèze qui dit adieu à l'ancien président. Les cérémonies ont lieu dans la matinée avec notamment un temps de recueillement privé et un dépôt de gerbes sur la tombe familiale au cimetière de Sainte-Féréole. Nicolas Sarkozy ne fera pas le déplacement car il est ce matin en Seine-et-Marne, à Provins, pour une séance de dédicace de son livre « Passion au pluriel ». Il sera reçu par le député du département Christian Jacob, actuellement en campagne pour le poste de président du parti Les Républicains. Lui aussi a rencontré ses lecteurs hier à Paris, dans le quartier latin. Jean-Marie Le Pen, qui vient de publier le deuxième tome de ses mémoires et qui a été condamné jeudi pour 2 injures publiques visant les homosexuels. L'ancien leader du Front National, toujours très à l'aise, Julien Fautra, face à ses fans.
Bonjour Président.
Salut Fraternité.
Heureuse de vous.
À son arrivée, Jean-Marie Le Pen fend cette petite foule compacte, s'installe au fond dans un coin de cette librairie exiguë spécialisée dans les publications nationalistes. Pas de dédicace, les livres seront emmenés à Montretout chez lui. Il est là uniquement pour rencontrer ses fans.
C'est mon Dieu, quoi.
Faire des photos et des selfies.
Venez, venez.
Est-ce que c'est possible de faire une photo avec vous?
Ce sont des Bretons, ça. C'est la solidarité, comment dit-on, ethnique.
Moi, en lisant les mémoires de M. Le Pen, j'ai appris la vraie histoire, la vraie guerre.
Comme avec ce jeune de 17 ans, Jean-Marie Le Pen enchaîne les plaisanteries, les petites blagues, même quand il fait mine d'apprendre que Marine Le Pen, sa fille, malmenée dans ses mémoires, ne lira pas l'ouvrage.
Je me demandais si est-ce que c'est peut-être parce qu'elle ne sait pas lire. Ça me paraît un raisonnement tout à fait indigne d'un dirigeant politique, mais je m'en passe.
Jean-Marie Le Pen qui a maintenu cette rencontre, même si la librairie a été vandalisée, les vitres ont été très abîmées. Cela s'est passé la nuit précédente, selon le gérant.
Reportage RTL, Julien Fautra. En bref, à l'étranger, une situation tendue à Hong Kong où les manifestations dégénèrent. Notre correspondant Philippe Dova nous signale des heurts ces dernières heures entre policiers et contestataires. Des stations de métro ont été vandalisés, tous les transports en commun sont à l'arrêt. Les manifestants ont envahi les rues, allumé des feux. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles, blessant un jeune de 14 ans. Le football est le début hier soir de la 9e journée de Ligue 1 avec une confirmation. Marseille piétine, 4e match consécutif sans succès et même une défaite hier soir sur la pelouse d'Amiens, 3-1. L'OM privé de Thauvin, blessé de Strootman et Payet suspendu et provisoirement 6e du classement. Le constat du gardien Steve Mandanda, la déception tient en 20 secondes.
C'est une grosse déception parce qu'on fait beaucoup d'erreurs et puis on ne concrétise pas les peu d'occasions qu'on peut avoir, donc on ne mérite pas forcément de gagner aujourd'hui. En plus, on a beaucoup d'absents et on le voit aujourd'hui. Mais encore une fois, on ne peut pas se cacher derrière ça et à part travailler, il n'y a que ça qui nous reste.
Qui nous reste à faire, Steve Mandanda, le gardien marseillais au micro RTL d'Hervé Veugle. La suite ce samedi 17h30, PSG Angers, le premier contre le deuxième. À 20h, 5 matchs au programme à suivre en direct dans le multiplex RTL, le Parisien aujourd'hui en France, avec notamment Toulouse, Bordeaux et Montpellier-Monaco. Le foot au féminin, nos filles ont brillé hier soir en match amical disputé à Nîmes. Large succès face à l'Islande, 4-0, avec notamment un doublé de Johnny Le Sommer. Direction à présent Doha pour les championnats du monde d'athlétisme disputés, vous le savez, au Qatar. La nuit a été plus que moyenne pour le camp tricolore, en particulier pour Mélina Robert-Michon, la vice-championne olympique du lancer du disque, a raté son concours, Jean-Michel Rascol, seulement 10e.
Malgré un lancer prometteur en qualification, Mélina, de retour à la compétition après la naissance d'une deuxième petite fille, n'a pas encore tout à fait assimilé une technique qui peut à l'avenir lui permettre de lancer loin. Mélina Robert-Michon.
Je sais qu'on est dans le bon, que ça se met en place. Je pense que j'ai pas su assez me remobiliser pour la finale. Mais voilà, il faut encore un peu de travail, je pense, et ça sera pour l'année prochaine.
Les filles du 4x100 ont flirté avec le ridicule, un passage de témoin hors zone d'au moins 2 mètres. En revanche, les garçons se sont hissés en finale, mais sans Christophe Lemaître, étrangement écarté, le premier relayeur, Amaury Golitain.
Les dirigeants, donc Dimitri Daumonnière, le coach des relais, a pris la décision de le mettre sur la touche. L'équipe actuelle est très forte. Ça fait depuis pas mal de temps qu'il n'y avait pas eu un tel chrono au niveau de la France. Donc je pense que peut-être un renouveau. Et voilà.
Voilà, le temps passe pour Christophe. L'homme de Rio n'est pas celui de Doha. 10 jours dans la clim d'un hôtel sans charme. Qu'elle doit lui manquer sa douce vie à Aix-les-Bains.
Jean-Michel Rascol, envoyé spécial de RTL au Qatar pour ses mondiaux d'athlétisme. Et puis à tous ceux qui se demandent si enfin il y a eu un vainqueur hier soir à l'Euromillion pour la super cagnotte de 190 millions d'euros. Eh bien la réponse est non, pour la 4e fois de suite. Du coup, le pactole qui a atteint son plafond sera à nouveau proposé mardi. Et cette fois, il y aura forcément un ou des heureux. Car si personne ne trouve les 5 bons numéros, le jackpot sera en effet distribué au rang de gain suivant. Vous nous rejoignez la page Facebook à disposition. Vos messages ce matin, les bisous de Nanou avec 13 degrés à Bernay. Dominique est connecté dans le nord de Valenciennes. Il y a de la pluie ce matin dans le nord. Il y a Jean-Claude à La Rochelle. Il a des petits nuages blancs dans le ciel et 14 degrés.
7h12.